Anne-Cécile Robert, vous continuez sur ce dossier. Alors là, c'est plus tellement le cul-de-sac français, en termes sociaux, le modèle social français dont il s'agit, mais c'est plutôt celui qu'on a voulu nous proposer, qui a semble-t-il été refusé par les électeurs, c'est le modèle social européen, qui se fond parfaitement dans cette même analyse, si je comprends bien.
Oui, parce que rien n'est dû au hasard. On est dans des logiques aujourd'hui qui parcourent non seulement l'Europe, mais c'est-à-dire le reste du monde, qui font que finalement, le social passe toujours derrière les préoccupations économiques, et en particulier les préoccupations en termes de compétitivité des entreprises. Et le modèle, ce qu'on appelle le modèle social européen, c'est la mise en œuvre de cette espèce de système où tout le social, toute préoccupation sociale est toujours systématiquement reléguée au profit des préoccupations des entreprises.
C'est ce que Serge Lamy appelait la clause du patronat le plus favorisé.
Et le drame, c'est que malheureusement, l'Europe se construit là-dessus. Et on a demandé à une sociologue belge qui s'appelle Corinne Gobin, qui suit très bien ces questions-là, d'essayer de nous expliquer comment cette logique s'était mise en œuvre, comment elle fonctionnait, et à l'aide d'exemples, de nous montrer concrètement ses conséquences. Alors ce qu'elle montre, sans dévoiler tout le contenu de l'article, c'est que, bon, d'une part, on est dans cette logique de subordination du social à l'économique, et elle dit que c'est une régression de civilisation. Parce qu'en revenant sur l'histoire longue, elle montre que le droit social, dans les États européens en particulier, s'est construit justement parce qu'on a pris conscience que le social avait ses caractéristiques, ses préoccupations, et qu'il fallait le prendre en compte indépendamment des préoccupations des entreprises. Et que il y avait une sorte de principe de réalité sociale qui faisait qu'on ne pouvait pas traiter de la question du chômage, de l'emploi, des droits des personnes dans le monde du travail avec les mêmes critères qu'on pouvait le faire dans le reste de la société.
D'où le droit du travail, d'où le droit social.
D'où la construction d'un État social avec des services publics, avec une réglementation publique qui sont là pour corriger les inégalités qui existent de fait dans la sphère économique. Vous savez qu'en en droit classique, on admet que des personnes qui passent un contrat entre elles sont égales. Des deux personnes sont égales en droit français. Mais vous ne pouvez pas transposer ce problème-là dans la sphère économique et sociale. Il est bien évident que quelqu'un qui demande du travail, qui va dans une entreprise pour passer un contrat de travail, n'est pas dans une situation d'égalité par rapport au chef d'entreprise. On est bien obligé de tenir compte du fait qu'une personne qui demande du travail est dans une situation d'infériorité par rapport à la personne qui peut le lui offrir. Et Corinne Gobin montre bien qu'on a construit le droit social historiquement sur la prise en compte de cette inégalité et qu'avec la logique du modèle social européen, on est en train de revenir là-dessus, et on fait comme si, d'où les thèmes du village planétaire, etc., on fait comme si on était tous de joyeux entrepreneurs qui entrent en compétition les uns avec les autres, que le meilleur gagne, d'où cette idée que les pauvres et les chômeurs sont en fait de mauvais entrepreneurs, des perdants qui n'ont rien compris au système.
Ils sont responsables de leur statut.
Juste une chose, au Royaume-Uni, les chômeurs, on les appelle clients des agences nationales pour l'emploi.
On est dans une logique qui est complètement irréaliste, là, pour le coup, quand on pense que les libéraux réclament toujours, pour eux, le principe de réalité, c'est eux qui sont dans l'irréalisme le plus total. On ne peut pas faire comme si une personne, un salarié, était dans la même situation qu'un chef d'entreprise. Et donc, dans son article, Corinne Gobin revient là-dessus, et elle démontre ce qu'elle appelle une logique de construction régressive de la construction européenne, c'est-à-dire que l'Europe construit pour détruire le droit social et pour détruire des choses que certains appellent des privilèges, mais qui sont en fait simplement la construction du bien-être des gens dans une société de progrès. Et elle prend plusieurs exemples, notamment la question du temps de travail, où elle montre comment l'Union européenne a voulu, en 1993, adopter une réglementation en matière de temps de travail, a adopté une directive qui fixe le temps hebdomadaire de travail à 48 heures, ce qui est quand même déjà beaucoup. Mais ce qui est terrible dans cette directive, nous décrit Corinne Gobin, c'est qu'il est prévu ce qu'elle appelle des bombes dérégulatrices, c'est-à-dire que non seulement c'est 48 heures, ce qui est déjà beaucoup, mais dans le calcul 48 heures hebdomadaires, mais dans le calcul de ces 48 heures, on ne tient pas compte des temps de repos, ce que disait Serge Halimi tout à l'heure à propos du modèle anglais. Donc vous pouvez être scotché à votre entreprise pendant 12 heures, mais on ne tient pas compte des temps de repos entre les temps de travail, donc c'est hyper flexible. Et en plus, la directive européenne prévoit que les patrons et les salariés peuvent déroger à cette directive par un accord entre eux. Donc voilà. Là, on est en plein délire, c'est-à-dire que on voit la régression totale, c'est-à-dire les particuliers peuvent déroger à la loi par des accords entre eux. Alors vous imaginez bien que vu la situation de l'emploi en Europe, la négociation entre les salariés et le patronat va en général tourner à l'avantage du patronat.
Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler plus et gagner autant, en gros ?
Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler plus et gagner moins ? Et ce qu'elle décrit, Corinne Gomac, complètement hallucinant, c'est que la Commission européenne a décidé d'actualiser et d'améliorer à ses yeux la directive sur le temps de travail, et donc allègrement elle nous propose de passer de 48 heures à 55 heures. 65 heures, oui, pardon, exactement, Bernard Cassen, à 65 heures, de continuer à flexibiliser, puis elle dit bon ben pour cette possibilité de déroger entre salariés et patrons à cette directive, ben il faut juste qu'on l'encadre par des conventions collectives. Donc il ne s'agit pas du tout de supprimer cette dérogation. Alors le Parlement européen passe par là. Il dit, bon non, 65 heures c'est trop, on passe à 55, le paradis est devant nous. La question de la flexibilité dans le calcul du temps de travail reste entière. Donc on est dans une logique où quand on veut améliorer les choses, en fait, on continue à les aggraver. Et malheureusement, c'est toute la logique de l'Europe sociale qui est bâtie là-dessus. Et c'est pour ça que cette Europe sociale qu'on invoque souvent, on la voit jamais.